Mesdames, Messieurs, je vous propose de commencer cette première demi-journée du colloque historique et j'ai tout de suite le plaisir et l'honneur de donner la parole à M. Pierre Maudet, conseiller d'État.
Merci Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente du CICR, Mesdames, Messieurs, j'ai l'impression de prendre mes quartiers ici à l'ING puisque j'étais déjà là hier soir, mais on m'a dit qu'il n'y a que la moitié de la salle qui était là, l'autre moitié n'était pas encore, alors je ne vais pas vous refaire le speech que j'ai fait hier, mais je voulais ce matin au nom du canton de Genève vous témoigner à nouveau de l'importance que nous plaçons dans l'événement, le début des événements. J'ai évoqué hier soir le fait que nous fêtons cette année les 150 ans du souvenir de Solferino, et nous allons évidemment nous retrouver en 2013 et en 2014 pour là aussi commémorer des anniversaires non moins importants, puisque 1863 et 1864 sont aussi des dates qui vont faire écho dans la République. Donc c'est d'abord pour souligner l'importance de ce cycle de conférences et manifestations, remercier une fois encore la société Henri Dunant, et dire également un message de bienvenue, et c'est peut-être le propos particulier d'aujourd'hui que voulait adresser le gouvernement de ce canton, un propos de bienvenue à nos hôtes étrangers. J'ai cru comprendre que le programme prévoyait notamment cet après-midi en particulier l'intervention d'éminents professeurs d'universités de pays voisins, l'Italie, l'Allemagne notamment, et je tenais ici à dire à quel point c'est important aussi pour Genève d'accueillir des personnalités qui, en écho à ce qui s'est passé il y a 150 ans au nord de l'Italie, contribuent à faire rayonner les idées développées par Henri Dunant. En effet, ces commémorations des 150 ans ici du souvenir Solferino sont l'occasion de nous plonger avec beaucoup d'intérêt sur le contexte qui était celui d'Henri Dunant en 1862. Contexte européen en mouvement, avec M. Langendorf l'a rappelé sans doute hier soir, même si j'ai malheureusement pas pu assister à son exposé, un contexte militaire particulier, une logique de bataille propre à cette époque, avec un échec militaire patent, mais au-delà de ça, une géostratégie de l'Europe qui pose les bases de la nécessité d'une action dans le domaine de l'humanitaire. De ce point de vue-là, je ne peux que m'associer à la démarche de la société Henri Dunant, qui consiste à analyser le contexte, le comprendre, comprendre ses paramètres, se replonger quand même dans la dimension dramatique des conséquences de cette bataille. Et résonne en moi, puisque je l'ai relu l'été passé, l'adresse de ces infirmières, de ces femmes qui s'engagent dans l'église de Castiglione et qui disent à un moment « tutti fratelli », n'est-ce pas, tous frères, tous les uns les autres frères en humanité. Au-delà de cette notion-là, de voir que l'Europe qui s'entre-déchire déjà au XIXe siècle pose les jalons de la nécessité d'une dimension humanitaire dans le droit international, dans la gestion des conflits. C'est la raison pour laquelle le canton de Genève s'associe une fois de plus à cette démarche. Vous souhaite de bonnes réflexions aujourd'hui sur cet aspect-là, demain sur la portée du témoignage écrit, et puis je crois samedi, oui, enfin justement demain également, demain après-midi, sur l'actualité de ce message, puisque là aussi on peut se demander aujourd'hui comment est-ce qu'un Henri Dunant moderne, à travers un témoignage écrit par hypothèse, peut-être sur Internet ou à travers d'autres supports, arriverait à faire entrer en résonance la description crue d'une situation pour déclencher ensuite un mouvement qui a eu le succès qu'on lui connaît. Ce n'est pas Cornelius Maruga ici présent qui va me démentir le succès du CICR. Voilà, en un mot commençant, merci encore. Je vous souhaite une excellente journée, de bonnes réflexions. Je me réjouis de les lire dans les actes puisque de nouveau, je ne pourrais malheureusement pas. La vie d'un conseiller d'État ne permet pas de rester trop longtemps aux manifestations qu'on inaugure et c'est toujours un peu un crève-cœur. Et puis, encore une fois, bon séjour en particulier à nos hôtes étrangers dans notre belle ville de Genève. Merci.
Nous sommes
très sensible à l'intérêt que porte le Conseil d'État et notamment M. Pierre Maudet à nos activités d'historien, parce que la mode est terriblement au devoir de mémoire triste, au devoir de mémoire catastrophique, au devoir de mémoire notamment liée aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Or, nous avons aussi un devoir de mémoire pour les belles pages d'histoire. Et le soutien du Conseil d'État dans notre démarche est particulièrement apprécié. Merci, M. Maudet. Je vais donc donner maintenant la parole à Madame Christine Berli, vice-présidente du Comité international. Je dirais que c'est une amie fidèle de nos activités, puisque régulièrement, au dernier colloque de 2010, elle a aussi officié, elle a donc aussi accepté de donner de son temps, de manifester l'intérêt que porte le CICR, notamment l'Assemblée, qui, vous le savez, a d'autres urgences et d'autres tâches tellement plus importantes et accaparantes, mais nous sommes très sensibles à cet investissement que nous accorde l'autorité, on pourrait dire, supérieure de l'humanitaire à Genève. Madame Berli, je vous laisse la parole.
Monsieur le Président, cher Monsieur Durand, cher Cornelio, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de pouvoir présider cette première séance du colloque. Je ne vais pas vous avoir une allocution, mais quand même deux, trois mots avant que je passe la parole naturellement aux orateurs de ce matin. Assez souvent, j'ai quand même la possibilité de présenter le travail du CICR lors de conférences ou bien aussi à l'étranger. Et moi, je commence toujours finalement avec Solferino, parce que je dis aux gens que le Comité international de la Croix-Rouge a été né finalement sur les champs de bataille de Solferino. Et ce qui est intéressant pour moi, ce n'est pas tellement que l'histoire, mais aussi le fait que Henri Dunant, après, en écrivant son livre, il a finalement posé les deux piliers sur lesquels nous travaillons encore aujourd'hui. Il a d'un côté organisé de l'aide, il a organisé l'aide à Castiglione dans l'église, il a fait tout pour que vraiment les blessés aient vraiment de l'aide et puis qu'on puisse venir à leur secours. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un pilier du CICR. C'est là où nous essayons d'être sur place, d'être flexible, d'être rapide. Aujourd'hui, on appelle ça, qui n'est pas le français, on dit « rapid deployment ». C'est une unité que nous avons pour être vraiment sur place très vite, pour amener de l'aide et d'être très flexible. C'est un de nos piliers de travail qui nous est très cher. Mais d'autre côté, après, Henri Dunant, il ne s'est pas contenté qu'avec ça. Il aurait pu finalement organiser là l'aide et puis après se dire, ma foi, j'ai fait ce que j'ai pu et je rentre à la maison. Maintenant, j'ai une expérience terrible, mais j'en fais pas plus. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a écrit ce livre duquel vous allez débattre les deux journées prochaines. Il est allé, après avoir écrit le livre auprès de tous les gens influents de l'époque, et puis, il a fait des réflexions sur le fait de pouvoir, éventuellement, ce qui a été fait après, donner quand même quelques règles à la guerre. Et puis, là, il a posé les premières pierres du deuxième pilier sur lequel nous travaillons encore toujours aujourd'hui. C'est les premières pierres pour créer finalement le droit international humanitaire. Et c'est le deuxième pilier sur lequel nous travaillons encore toujours. Nous sommes le gardien du droit international humanitaire. Nous regardons, nous avons fait une étude assez conséquente les dernières années pour voir si le droit international humanitaire est toujours adapté aux nouvelles formes de la guerre ou bien s'il faudrait éventuellement évaluer. Et nous avons même reçu, lors de la conférence internationale de novembre dernier, un mandat de vraiment développer, de faire un essai de développer le droit international humanitaire dans deux points très précis. Alors, deux piliers qui ont été posés finalement déjà dans ce livre duquel vous allez débattre et sur lesquels nous travaillons encore aujourd'hui. Et c'est à cause de ça que c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous et de pouvoir présider cette première session. Maintenant, naturellement, j'ai le plaisir et l'honneur de donner la parole à M. Roger Durand, une personnalité que je ne dois pas vous présenter, vous la connaissez toutes, tous. C'est vraiment l'âme finalement de votre association. C'est quelqu'un qui a une motivation énorme et aussi une force de travail qui est extrêmement considérable et puis remarquable. Il a organisé tout ça ensemble avec aussi d'autres personnalités que je vais avoir le plaisir de nommer après. Mais c'est lui quand même qui tire toujours, qui a une force et qui va nous donner maintenant la première allocution. Et je passe la parole à M. Durand. Merci.
J'ai donc une vingtaine de minutes pour vous parler d'un homme hyper actif pendant une année 1862. Donc vous devinez bien que c'est une gageure. Je vais essayer de relever quelques traits marquants, mais bien entendu, je vais oublier certains aspects et naturellement vous pourrez poser des questions ou compléter, ce sera le bienvenu. Je me suis surtout centré sur Henri Dunant en 1862 à Genève. Je commencerai par un bref portrait familial. Il a donc 34 ans. Sa famille est une famille complète, unie. Sa mère est donc une personne de référence pour lui. Il la vénère, mais c'est une femme dépressive et c'est aussi une femme, disons, qui souffre de l'absence de son mari. Parce qu'en fait, en réalité, Jean-Jacques Dunant, commerçant, vit beaucoup plus en France qu'à Genève et jusqu'à présent, on ne savait pas grand-chose de son activité. Il est en tout cas sûr que c'était un homme d'affaires avisé, puisque à sa mort, il va laisser une véritable fortune, mais dont apparemment ses enfants et sa femme n'ont pas profité de son vivant. Henri Dunant a une sœur cadette, Anna, qui a épousé le pasteur Vaucher. Ils ne sont pas à Genève. Il a un frère, Daniel, qu'il intègre dans ses opérations financières en Algérie. Il a un dernier frère, Pierre-Louis, médecin, qui va faire une brillante carrière jusqu'à la faculté de médecine. Il a un seul oncle vivant à cette époque, c'est le fameux Daniel ou Jean-Daniel Colladon, physicien connu dans l'Europe entière. Henri Dunant n'est pas marié, on ne lui connaît pas de liaison, mais à l'époque, on ne laisse pas beaucoup de traces si les choses n'aboutissent pas. Il y a un daguerréotype assez étonnant qui nous montre Jean-Gabriel Hénard, le richissime banquier, grand amateur de photographie, assis à côté de son épouse, Anna Lulin, et à côté d'eux sont assis Henri Dunant, il est attesté, et une jeune femme. Et puis derrière, il y a des personnes debout. Alors on peut se dire, il y avait peut-être là un projet de mariage qui n'a pas abouti, mais c'est de nouveau une de ces questions mystérieuses à creuser. Toujours est-il que notre Henri Dunant de 1862 est un homme, j'allais dire libre, en tout cas il est seul, et il apparaît assez comme le chef de la famille, n'est-ce pas, puisque le père n'est pas là, la mère est un peu dépressive, et par exemple, on a quelques lettres où il écrit au nom de sa mère. Donc on a là déjà une position dominante que nous observerons dans d'autres secteurs de son activité. Où vit-il ? Alors, vous connaissez, on va peut-être passer la première photo pour nous montrer le grand bourgeois. C'est une photo entre 62 et 64, elles ne sont pas datées, elle est archi connue, mais on n'en a pas beaucoup hein, de ces photos de Dunant. Vous le voyez, c'est un homme du monde, sûr de lui, qui a réussi. Et j'aimerais passer la seconde photo, s'il vous plaît. Et alors là, vous voyez la maison du Puy Saint-Pierre numéro 4, donc juste à côté de la maison Tavel. Henri Dunant et son frère Daniel en ont hérité d'une tente, et ce sera son état-major. Nous avons posé une plaque commémorative. D'ailleurs, je crois que M. Semarouga avait participé à la cérémonie, et parce que nous disions que c'était donc la maison d'Henri Dunant, où il a rédigé le souvenir de Solferino, où il a installé la première adresse de la Croix-Rouge. Nous savons que les Dunans ont un domaine à La Monnaie, qui est à Cornavin, donc juste en dehors des portes de la ville. On est en train de démolir les murailles à ce moment-là, mais de ce domaine, nous ne savons rien du tout. C'est curieux, on n'a aucune trace, aucun plan, aucune photo, rien du tout, sinon qu'on sait que c'était un grand domaine. À l'époque, les familles bourgeoises avaient volontiers à la campagne un domaine rural qui était aussi une exploitation agricole. Du côté Colladon, on a un domaine à Avuilly, nous avons aussi posé une plaque commémorative il y a fort longtemps. C'était donc la résidence d'Henri Colladon, le grand-père maternel, le patriarche pour lequel Henri Dunant a des évocations très très émue et très marquante. Alors, jusqu'à présent, on disait Henri Dunant, fondation de la Croix-Rouge, puis Saint-Pierre. Or, dans la correspondance, je viens de découvrir quelque chose qui m'étonne, c'est peut-être même un scoop, c'est-à-dire qu'en 1862, Henri Dunant déménage et il va habiter à Champel. C'est assez cohérent, il a sa maison en ville. Je vous rappelle qu'en ville, tout est serré, ça sent mauvais. C'est exigu, enfin, etc., etc. C'est des vieilles maisons, alors que tous les bourgeois qui le peuvent s'offrent une maison à la campagne. Et le plus près possible de la ville, c'est Champel. Le général Dufour a fait la même chose avec Contamine. Alors, il faudra maintenant qu'on établisse où est cette demeure du nom à Champel. Je lis juste une phrase d'Édouard Ador de décembre 1862. « J'ai été vous chercher deux fois d'abord à votre ancien logement rue du Puy-Saint-Pierre, puis à Champel. » Mais malheureusement, il ne nous dit pas où. Mais je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine plaque commémorative. Profil social. Alors, nous savons que Henri Dunant veut réussir dans le monde. Et alors, nous voyons qu'il est membre de la société de lecture. À l'époque, déjà et encore plus, c'était un lieu extrêmement huppé. Les cotisations horriblement chères. Et c'était la très bonne société qui se réunissait là pour lire, pour discuter, faire de la politique, etc. Dunant en est membre. Il est membre de la Société de littérature, qui est, elle, une société de poètes, d'écrivains. Et nous avons un témoignage d'Édouard Tavant, qui date du 12 janvier 63. Je suis sorti de 12 jours de mon année 62. Et Édouard Tavant note dans ses mémoires qu'il a reçu le souvenir de Solferino avec une dédicace. Et la dédicace, c'était Matthieu 10, 32. Alors, citons juste ce passage biblique. « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. » Donc, on a là une résonance nettement religieuse de Dunant dans un milieu culturel littéraire. Dunant est aussi membre de la Société des Arts, classe industrie et commerce. C'est normal, puisque c'est un entrepreneur financier. Il est aussi membre et fondateur de la Société de géographie, qu'il a fondée avec le général Dufour, avec Boutillier de Beaumont, avec Paul Chay, qui à l'époque était le gratin des géographes européens. Donc pas uniquement Genevois à ce moment-là. Genève a une place très importante dans la géographie. Et Moignet, Appia, les rejoindront l'année suivante. Donc là, Dunant est vraiment en avance par rapport aux autres. Alors, pour l'étranger, je vous citerai simplement pour mémoire, il est membre de la Société d'Histoire et d'Archéologie d'Alger, il est membre de la Société d'Ethnographie de Paris, de la Société de Géographie de Paris, et à l'époque, c'était des sociétés très huppées, des cénacles très recherchés, on n'y entrait pas comme ça, il fallait se faire parrainer par des tout grands savants. Donc, on voit que là, il a une surface sociale, culturelle, scientifique, très élevée. Alors que, vous le savez, il a quitté le collège à 14 ans. Donc on a tous des espoirs, n'est-ce pas? Et la réussite scolaire n'est pas la clé de la réussite. Toujours par rapport à son profil social, soulignons que depuis janvier 60, il est chevalier de l'ordre de Saint-Maurice-et-Lazare, accordé ou décerné par le roi du Piémont. On m'a dit que la monarchie piémontaise distribuait assez largement cet ordre à ce moment-là dans une opération de relations publiques pour préparer le royaume d'Italie. Mais quand même, il la reçoit. Et pour nous, c'est très 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 important parce que ça nous prouve que En été 59, il avait fait quelque chose, puisque dans la fin de l'année 59, l'administration royale du Piémont lui prépare cet ordre de chevalerie. Et puis depuis l'été 60, il est aussi chevalier avec le titre de Nicanm Iftikhar de 3e classe, que lui a décerné le Bey de Tunis. Alors, par rapport à nos autres futurs fondateurs, le général Dufour, lui, est bardé de décorations, c'est pas une surprise, mais les autres n'en ont encore aucune. Donc il est manifestement aussi en avance, et les jeunes voix de la catégorie sociale dans laquelle Dunant évolue sont extrêmement friands de décorations et de considérations, on pourrait dire, nobles ou aristocratiques de l'Europe. Je vous rappelle qu'à l'époque, si je ne me trompe, la Suisse est la seule république en Europe. Tous les autres pays sont des systèmes monarchiques. Et donc notre grande bourgeoisie genevoise plutôt du côté des têtes couronnées. Et là, Dunant est un homme qui est en train de très bien réussir. Et dans sa famille, il n'y avait personne qui avait obtenu ces distinctions. Profil spirituel et religieux, on ne peut pas l'écarter. Vous vous rappelez qu'en 48, il anime les réunions du jeudi à la Société évangélique. En 52, il prend une part déterminante, Guy Lecomte nous l'a prouvé, comme fondateur et comme leader de l'Union chrétienne de jeunes gens de Genève, qui va devenir véritablement un foyer au niveau européen. En 55, il joue un rôle capital dans la formation de l'Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes gens à Paris. Et depuis 52, il joue aussi un rôle dans l'Alliance évangélique, qui, attention, n'est pas l'Alliance universelle des unions chrétiennes. Les unions chrétiennes, c'est un groupe de jeunes, c'est je ne veux pas dire des rebelles, mais c'est en tout cas des francs-tireurs, puisqu'ils ont refusé l'autorité de leurs parents, ils ont refusé l'autorité des pasteurs, c'est eux qui s'organisent eux-mêmes. Et d'ailleurs, lorsque a lieu en 55 à Paris cette réunion, on a plusieurs lettres de pasteurs, de vénérables pasteurs, qui grognent un peu, en disant que font ces gamins, ils nous échappent. Et alors, parallèlement, on a une alliance évangélique qui, elle, regroupe les aînés du mouvement évangélique dans l'Europe entière, et Dunant en est le secrétaire, mais un jeune secrétaire. Et il quitte ses fonctions en 1861, ce qui nous donne un indice que, en 62, il a pris des distances vis-à-vis, en tout cas, de l'action en première ligne dans les mouvements évangéliques. Il est en position de retrait. Et vous devinez bien pourquoi. J'ai maintenant essayé de regarder ses publications. Alors, on a vraiment trois catégories de publications qui nous intéressent pour cette période. Entre 52 et 58, ce sont des textes religieux. Ce sont des textes de combat, des textes brefs, des lettres, des circulaires, des pamphlets, des textes d'action qui sont autographiés. Il les signe toujours avec d'autres personnes. Mais c'est vraiment une apparition sur la scène publique très engagée. Puis nous avons, seconde catégorie, la fameuse notice sur la régence de Tunis. Une surprise, un immense succès. Elle est sortie en 57, elle arrivera en 58. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire qu'on a ici une mauvaise reproduction de cette décoration décernée par le Bey de Tunis. Elle est conservée maintenant au musée de la Croix-Rouge, musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, alors que l'ordre de Saint-Maurice-et-Lazare a été perdu. On ne sait pas où il est. Donc, Dunant sort cette notice sur l'agence de Tunis, qui lui vaut immédiatement à la fois l'ordre de chevalerie décerné par le Bey, mais aussi l'accès dans les sociétés savantes. Et il acquiert tout de suite un statut d'homme de lettres, d'homme cultivé, qui lui fait un grand plaisir. Et puis, troisième catégorie de publication, ce sont des écrits financiers. Vous savez qu'il a fondé la société des moulins de Mons-Gemila depuis 1954, qu'il a doté d'un capital très élevé en 1959 d'un million de francs, et il doit se battre comme un beau diable pour obtenir des autorisations et des concessions de l'administration française. Alors il imprime à Paris plusieurs mémorandums, souvent à un ou deux exemplaires, pour plaider son dossier. La dernière publication de Dunant, de 59, c'est ce fameux « Empire de Charlemagne restauré ». C'était un texte de flatterie pour Napoléon III. C'est un texte que Dunant a dû retirer de la circulation à la demande expresse de la chancellerie impériale. D'ailleurs, on en trouvait encore des exemplaires chez Fic. Quand j'étais collégien, j'ai pu acheter plusieurs exemplaires de cette notice pour le prix de 5 francs chacune. C'est-à-dire incroyable. Il restait un stock. Depuis le milieu du 19e siècle. C'est tout à fait extraordinaire, hein, Julien, ayant racheté le stock de Fic. Donc, nous nous arrêtons en 59, et entre 59 et 62, pas de publication. C'est évident, vous savez ce qu'il est en train d'écrire. Alors, est-ce qu'on peut passer l'image suivante, s'il vous plaît ? La voici. Donc, sur la rédaction du souvenir de Solferino, maintenant c'est assez avéré qu'en 59-60, il parle du souvenir, et puis en 61-62, il écrit. Et je relis juste, parce que pas le début, en écrivant silencieusement le souvenir de Solferino, « J'étais comme soulevé hors de moi, dominé par une force supérieure, inspiré par le souffle de Dieu. Dans cette émotion contenue dont mon âme était remplie, j'avais le sentiment d'intuition confus, quoique profond, que mon travail était un instrument de sa volonté. » Donc on peut penser que la rédaction du souvenir de Solferino est pour Henri Dunant une activité extrêmement accaparante et qui certainement marque et occupe les années 61-62. On peut passer la suivante, s'il vous plaît. Alors là, nous avons le seul manuscrit mais de la 7e édition de cette très belle écriture que Dunant préparait et s'est sorti dans les années 1901-1902. Et donc, c'est un résumé de l'édition de 62. On peut passer l'image suivante, s'il vous plaît. Alors, Dunant, vous le savez, remet une copie de son texte à Dufour, le vénérable général Dufour qui est ici, la suivante s'il vous plaît. Et Dufour habite à Contamine, et là nous avons une vue de Contamine du temps de Dufour, c'est-à-dire où la façade principale n'était pas complète. Donc Dufour s'était construit une petite maison, hein, c'est tout, alors qu'il avait une famille relativement importante. Et on n'a pas de preuves matérielles, mais tout nous permet de penser que Dunant allait à Contamine, puisqu'il habitait à Champel, c'est lui qui allait vers le vieux général, le vénérable général, pour parler de son livre. Et, pardon ? Eh oui, c'est juste que nous avons aussi posé une plaque ici, aussi avec le président Sonaruga. Maintenant, la maison Dufour vit grâce à M. René Tonnet et Marche Toudère et leurs amis qui ont obtenu une sorte de gérance de cette maison qu'ils ont complètement retapée parce qu'elle avait été abandonnée par les pouvoirs publics. Alors, c'est vraiment une maison historique et on a la chance qu'elle continue de vivre dans son esprit. Est-ce que je peux avoir la suivante ? Alors, donc, le général Dufour, le 17 octobre, écrit à Dunant. Et de nouveau, la production de Dufour est incroyable. Et je crois que ça vaut la peine de prendre deux extraits au tout début. « Sans doute qu'une association du genre de celle dont vous avez conçu l'idée serait bien désirable, mais sa réalisation rencontre de grandes difficultés. Elle ne peut guère être que temporaire et locale. Je saute quelques phrases. Il est difficile d'imaginer comment de semblables corporations pourraient être permanentes et suivre les armées dans les guerres lointaines. Voilà la réponse de Dufour. Mais Dunant, lui, se contente de la première phrase que je n'ai pas mise ici, que Dufour avait écrite parce qu'il ne veut quand même pas complètement fusiller ce malheureux philanthrope en herbe. Et il disait, il est bon d'attirer l'attention sur cette question humanitaire. Et Dunant ne cite que cette phrase à la page 115 du Souvenir de Solferino, la dernière page, et il dit, le vénérable général Dufour, il va tout le temps répéter que Dufour l'a soutenu. De même que Dunant répétera tout le temps que Florence Nightingale l'a soutenu, alors que c'est exactement le contraire, n'est-ce pas? Il avait une conception des relations publiques extrêmement efficace, peut-être parfois un petit peu distante de la réalité concrète. Mais l'important, c'est de réussir. Numéro 10, s'il vous plaît. Alors voilà, le Souvenir de Solferino sort, on ne sait pas si c'est fin octobre ou début novembre 1862, il est imprimé chez Fick, à compte d'auteur, il ne se vend pas, la typo est de magnifique qualité, mais la gestation laborieuse. Est-ce que je peux avoir la suivante? Alors là, nous avons la facture de Fick, qui date de 8 novembre, donc qui nous fait penser que le livre était déjà en tout cas sorti, et puis probablement depuis quelques jours. Et alors, grâce à M. Stéphane Aubert, qui est ici et qui m'aide beaucoup pour tous ces éléments PowerPoint, je tiens à le remercier, il a agrandi tout en bas une des phrases, n'est-ce pas? 342 heures pour changement d'auteur. À 75 centimes. À l'époque, ce n'était pas trop cher, mais ça représente quand même 256 francs, c'est-à-dire le 10% de l'impression des 1600 exemplaires. Donc, Dunant a beaucoup investi dans le retravaillement de son texte imprimé. Et ce qui nous indique que pendant cette année 62, il a dû passer son temps chez Fick. Et qu'il a retouché son texte, probablement d'informations qu'il recevait. Par exemple, le colonel Ferdinand Lecomte l'informe sur des questions de technique militaire. Guy en parlera tout à l'heure. Et puis alors, Dunant est un orfèvre aussi pour donner une actualité à ses publications. C'est-à-dire qu'il va truffer son livre de citations de l'année 1862, avec des dates de correspondants, etc. Donc, l'année 62, on peut le dire, est consacrée à la rédaction et à la préparation, la réalisation du Souvenir de Solferino et à sa diffusion. On a souligné, Mme Berly l'a dit, qu'il était un excellent communicateur. Il fait porter son livre un peu partout. Et nous avons conservé les lettres qui nous montrent que l'écho est unanime, c'est-à-dire bravo, c'est un beau livre, vous avez bien fait de montrer les horreurs de la guerre, vos inspirations chrétiennes sont très louables. Et on s'arrête là. Et vous le savez, il y a un seul homme qui vraiment va lui faire une proposition concrète, c'est Gustave Moynier qui lui rend visite. Et ainsi, et j'aimerais qu'on passe à la image 16, s'il vous plaît. Alors, oui, bon, alors c'était aussi pour insister sur la qualité technique du livre, et la suivante. Et l'autre facture de Fick, parce que Fick ne se gêne pas, et vous remarquez, composition en gravure très soignée, et 900 francs. Hein, il dépense 2500 francs pour l'impression de 1600 exemplaires, plus 900 francs pour une illustration. Donc il y a un souci d'excellence chez Dunant, un souci de produire les documents qui sont les plus performants de l'époque. J'aimerais qu'on continue, s'il vous plaît. Et alors voilà Fick. Alors, vous pensez bien que Dunant, il a dû payer ses factures à cet imprimeur parce qu'il n'avait pas l'air commode. Hein, voilà. La suivante. Voilà, puis ça c'est donc simplement l'endroit où on a mis la plaque et elle n'est pas encore dessinée ici. Et la suivante, s'il vous plaît. Alors, la conséquence majeure de cette activité de 1862, eh bien, c'est qu'Henri Dunant est accepté à la Société Genevoise d'Utilité Publique le 8 novembre. Ça veut dire que jusqu'à présent, notre grand bourgeois, il est membre d'un nombre incroyable de sociétés, mais il n'est pas de la Société Genevoise d'Utilité Publique. Il n'est pas un philanthrope.
il va le devenir, alors que tous les autres du comité international étaient des membres actifs de la SNUP. Donc on peut dire que ça, c'est une des conséquences majeures, c'est que Dunant va être emporté dans le tourbillon philanthropique dont nous connaissons les succès vertigineux. Malheureusement, je dois dire mais j'ai oublié de vous dire que la vie genevoise n'est qu'une partie de ses activités en 62. Il passe beaucoup de temps à Paris. Et vous savez pourquoi. La dernière, s'il vous plaît. Alors, c'est un des rares documents que j'ai trouvé de la Société des Moulins de Mons-Gemila. Dans le journal de Genève, 29 juin 1862. Et ceux qui s'y connaissent en finance voient le paiement du coupon de l'année aura lieu, etc., etc. Ça veut dire que Dunant, il a reçu des capitaux, mais il doit honorer les intérêts. Et vous savez que les entreprises algériennes ne rapportent rien à ce moment-là. Il doit tout construire, des routes, des ponts, des puits, des acheminements d'eau, etc. Il n'a pas de rentrée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il grignote le capital pour payer les intérêts. Et on peut dire assurément que cette année 1862, elle est aussi prise par les préoccupations financières. Nous sommes donc dans un moment où Dunant s'approche des sommets et de la consécration qui va culminer entre 63 et 66 avec toute la gloire qu'il va recevoir de la fondation de la Croix-Rouge et bien d'autres choses encore. Mais je pense qu'il n'est pas encore conscient que cette problématique-là va bouleverser sa vie en 1867. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Durand. C'est extrêmement intéressant d'entendre tout ce qui s'est passé en 1862. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions directement encore à poser ou bien est-ce qu'on prend peut-être une deuxième, allocution et puis après on va faire une tournée de questions. Alors j'ai le grand plaisir de saluer parmi nous Madame Françoise Dubusson, qui est chargée de cours à l'Haute École de Gestion de Genève, qui est aussi un membre du conseil de Fondation Gustave Adore et naturellement aussi de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève. C'est une des personnes qui a énormément aidé à organiser ce colloque aujourd'hui ici, quelqu'un de très très actif dans tout ce domaine. Et je lui donne volontiers la parole. Je vous en prie.
Merci Madame la Présidente. Et il faut reconnaître que prendre la parole après Roger Durand n'est pas une chose facile. Et d'autant qu'au seuil de ces deux journées de réflexion autour du souvenir de Solferino, j'aimerais, si vous me le permettez, vous ramener quelques décennies en arrière. À l'invitation d'ailleurs d'Henri Dunant lui-même, qui souligne dans ses mémoires que l'illumination du souvenir de Solferino a été bien préparée, je cite, par son éducation et sa sensibilité. Il ajoute, il faut que l'instrument soit préparé à l'avance pour le travail auquel il est réservé. C'est une vision assez triviale, me direz-vous, mais c'est quand même une trivialité qui, je crois, vaut la peine d'être explorée. Une œuvre, c'est évidemment un acte individuel, mais c'est aussi un acte social qui est lu et compris dans un cadre référentiel commun à l'auteur et à son public. Donc mon but ce matin est double. Dans un premier temps, j'aimerais mieux cerner l'idéal stylistique, l'imaginaire que Dunant a pu acquérir durant tout de même ses 4 années de collège, même si elles ne se sont pas très bien terminées. Et puis dans un deuxième temps, toujours sur la base d'ailleurs de textes et d'ouvrages dont Dunant souligne l'importance dans sa vie, j'aimerais m'arrêter sur deux titres qui ont véritablement transformé leur époque, leur auteur, peut-être aussi un peu Dunant, chacun à sa manière. Peut-être un peu ambitieux, mais j'aimerais cerner mieux l'horizon commun d'attente entre Dunant et ses contemporains en ces années entre 1840 et 1850-55. Lorsqu'il rejoint le collège en sixième année, Henri Dunant bénéficie d'un nouveau programme, tout juste issu d'une loi de 1836. Il suit trois années de collège entre 1838 et 1843. Trois années, les trois premières, sixième, quatrième et cinquième et quatrième, qui sont destinées à l'enseignement des langues latines et françaises, la géographie moderne et l'histoire, et puis également de la religion. Alors le latin, c'est le moins qu'on puisse dire, domine. 12 heures par semaine en sixième année, 13 heures en cinquième et 14 heures en quatrième. Il doit être soulagé d'arrêter, je crois. L'enseignement du français, lui, suit une évolution contraire, puisqu'on passe de 7 heures en sixième à 5 heures en quatrième. Il fallait bien placer le latin. L'histoire et la géographie sont enseignées durant 5 heures par semaine. Et la religion, là où justement le jeune Dunant excelle, n'est enseignée que 2 heures. Donc lorsqu'il quitte le collège en quatrième année, Henri Dunant n'a pas du tout touché à la langue grecque. Il connaît bien d'ailleurs, mais il ne connaît que la grammaire latine à fond, mais par de très courts extraits de manuels de grammaire et de stylistique. Aucune science, ça n'est abordé dans aucun domaine, peut-être un petit peu de sciences naturelles en géographie. Les journées sont longues, on commence à 7 heures, on termine à 15 heures ou à 16 heures, ça dépend des jours, avec tout de même 2 heures libres entre 11 heures et 13 heures, ces fameuses heures, vous vous souvenez, ces mémoires, qu'il occupe, soit chez sa tante Sophie, soit au Bastion, à se plonger dans des lectures qui, je cite, « sont captivantes, qui transportaient mon esprit facilement impressionnable dans les régions mêmes où se déroulaient les péripéties des histoires que je lisais. » Je vais vous décevoir, mais je vais vous épargner la liste des manuels de grammaire latine et française que Dunant a subi dans ses années de collège. Je les laisserai aux lecteurs patients des actes. J'aimerais en effet me concentrer sur un ouvrage que Dunant n'a pas seulement eu en main, ce qui peut toujours arriver avec un manuel scolaire, mais qu'il a vraiment lu, puisqu'il en cite des extraits dans des lettres à ses camarades, plus tard dans les années 50 encore, de l'Union chrétienne. C'est la Christomathie française, ou choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains français, d'Alexandre Vinet. Vinet, on connaît le prédicateur, talentueux, le membre actif et influent du Réveil, essentiellement vaudois. Mais c'est aussi un critique littéraire fin, très apprécié à Paris, ami de Sainte-Beuve, qui lui consacre plusieurs articles, notamment dans la Revue des Deux Mondes. Vinet est enfin un pédagogue formé sur le terrain, ça a son importance. Le terrain en plus de l'enseignement du français comme langue étrangère, puisqu'il enseigne pendant 20 ans au gymnase de Bâle. Et cette confrontation de la difficulté d'enseigner du français en commençant par la grammaire l'amène à publier en 1829 un ouvrage qui va avoir un succès considérable, qui va être imprimé à Paris, à Bruxelles, qui va former des générations d'étudiants, à tel point qu'il aura d'ailleurs assez mauvaise réputation dans les années 1940, quand on l'utilisera encore. Mais en 1829, c'est un ouvrage novateur. Des chrestomathies, donc des recueils de textes des plus belles œuvres de la littérature française, on en connaît déjà et Vinet le reconnaît lui-même. Mais lui amène deux nouveautés. D'abord, des textes relativement longs. Il est contre cette succession de beaux morceaux courts. D'abord, il estime qu'il faut habituer les élèves à la patience et à la persévérance, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Mais ensuite, ça permet de mieux faire prendre conscience que la beauté de la langue, elle est aussi dans la composition, pas seulement dans la beauté du vocabulaire, dans les belles phrases. Et ensuite, il applique un système de gradation. C'est le même volume, mais décliné en trois tomes. Le premier est destiné aux enfants, celui qu'a eu Henri Dunant en main et qu'il a lu, aux enfants de 12 à 14 ans. Il y a ensuite un deuxième volume pour les 14-16 ans et enfin un volume pour les adultes, jeunes et moins jeunes, sur lequel je vais revenir. Ce premier volume, on sait que Dunant l'a lu, il en a même peut-être appris des passages entiers, puisqu'il cite dans une de ses lettres en 52 à un de ses amis, Édouard Monnier, un passage d'un poème qui a dû faire vibrer sa fibre sociale, un poème qui s'intitule « Le petit Savoyard » et qui est une histoire épouvantable d'un tout jeune Savoyard d'une dizaine d'années dont la mère, veuve, est malade. Le petit Savoyard doit partir à Paris, essayer de gagner un peu d'argent, et ça se passe extrêmement mal. Il a faim, il a froid, il est dans la misère, il s'endort, nuit d'hiver, il va mourir, et non juste à ce moment-là, deux dames, deux très belles âmes, le relèvent, le nourrissent, le retapent et le renvoient chez lui avec un peu d'argent, un pain de froment, et il arrive juste au moment, au bon moment pour pouvoir s'occuper de sa mère malade. Dunant est frappé par deux choses, l'aspect social certainement, mais aussi par les très belles descriptions des Alpes. Ce jeune Savoyard, les Alpes lui manquent, et quand il voit ses Alpes natales, il a de très beaux mots à ce sujet. Mais j'aimerais aussi m'arrêter sur le troisième volume. Le troisième volume est extrêmement intéressant, il est destiné donc aux jeunes et moins jeunes adultes, et c'est là qu'on trouve des auteurs contemporains. Vinet est un amateur absolu de Pascal, il adore Pascal, et dans le deuxième volume, pour les 14-16 ans, il y a beaucoup de Bossuet, de Pascal, qui ont dû un petit peu ennuyer les élèves. Mais le troisième volume a dû rattraper la chose, on y lit du Chateaubriand, Hugo, Lamartine, Alfred de Vigny, je vous le rappelle, on est en 1829-1830. Et même un texte extrêmement intéressant qui vient de paraître, signé de Prosper Mérimée, et qui est d'une violence extrêmement étonnante par rapport au reste du texte. Même aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça passerait dans ce genre de manuel. Ça s'intitule « La prise de la redoute ». C'est un vrai récit de guerre. C'est avec tous les épisodes, une longue veillée d'armes, la peur du jeune héros frais et moulu de l'école militaire, l'ordre de marche, puis dans l'exaltation, les boulets, ça lui fait pas trop peur, il voit que ça lui passe par-dessus, les obus, ça c'est autre chose, puis les balles de mousquet, et enfin la charge à la baïonnette qui laisse notre jeune lieutenant, je cite, excusez-moi, couvert de cervelle et de sang devant son capitaine mourant mais tellement fier d'avoir pris la redoute. Un texte qui saisit, vraiment. Comme le souhaite d'ailleurs Vinet, qui dit dans la préface à ce troisième volume, « Qu'est-ce que l'inspiration ? Sinon une idée devenue sentiment. Nous ne sommes quelque chose que par nos affections. L'essence d'un texte est bien dans l'âme, pas dans la tête, et quel qu'en soit le sujet, un beau livre, c'est celui qui remue le lecteur jusqu'au fond de ses entrailles. » Dans ces années, remuer le jeune Dunant l'a été aussi par une autre lecture haletante, passionnée, qui a duré plus d'un an, de juin 1842 à octobre 1843. Ils sont des millions à avoir subi la même exaltation. C'est la lecture des Mystères de Paris, dont vous avez ici la première parution dans le très sérieux, par ailleurs, Journal des débats. Et en rez-de-chaussée, vous avez le feuilleton, le si fameux feuilleton des Mystères de Paris. En quelques semaines, le journal passe de 3000 abonnés à 10 000. Un journal à 80 francs par an, ce qui est hors de prix pour l'époque. On a des témoignages de gens qui ne vont plus au théâtre pour pouvoir s'offrir l'abonnement au Journal des débats. Ceux qui, enfin, on fait la queue devant les cabinets de lecture où on loue à la demi-heure le journal. Chacun fait ses affaires. Et ceux qui ne savent pas lire se font raconter les histoires du fameux prince justicier Rodolphe qui va sillonner les bas-fonds pour essayer de rétablir la justice et essayer de retrouver sa fille qui s'avère être, à la fin du roman, je casse le suspense, hein, tant pis, la si belle et fragile Fleur de Marie qui a été obligée de se prostituer pour survivre. On y voit aussi les aventures du brave et très bavard concierge qui s'appelle Pipelet, et c'est d'ailleurs depuis là que nos concierges sont des pipelettes. Toute la France, les pays francophones, se prennent de passion pour les bas-fonds parisiens, on organise des cours d'argot dans les salons, et Théophile Gautier dit même « Des malades ont attendu pour mourir la fin des Mystères de Paris. » Le magique, la suite à demain, les entraînait de jour en jour, et la mort comprenait qu'il ne serait pas tranquille dans l'autre monde s'il ne connaissait le dénouement de cette bizarre épopée. Bref, les Mohicans de Paris, comme les appelle Alexandre Dumas, extrêmement jaloux d'ailleurs, sont un immense succès, mais pas seulement. Au fil des chapitres, le livre transforme littéralement, son auteur. Connu pour être un dandy, il est connu plus pour ses frasques que pour sa fibre sociale. Eugène Sue a d'abord dilapidé consciencieusement la fortune paternelle en soirées fines et en champagne. Et les mystères de Paris, c'est pour lui une bonne occasion simple et rapide de gagner des sous. Avec un sujet accrocheur, tout à fait dans l'esprit du temps, et une sorte d'exotisme à domicile qui ne pouvait que plaire. Mais c'était sans compter avec les lecteurs. Les lettres arrivent très vite par sac entier au journal, avec comme adresse à monsieur et je le suis, génial auteur des mystères de Paris. Un lecteur lui dit « Heureusement qu'on vous a, ce n'est pas avec des Hugo que nous pourrions avoir de tels ouvrages. » Les Mystères de Paris, c'est sans doute la première œuvre interactive, en temps réel, au jour le jour. Les lecteurs remercient l'auteur de dénoncer les drames sociaux de la misère. Les ouvriers le félicitent de mettre les riches en face de leurs responsabilités et ils sont sûrs que ce sera beaucoup plus efficace que le sermon des curés parce que lui sait toucher les âmes. Il suscite des réactions. Et Sue devient, je crois à sa propre surprise, une sorte de prédicateur laïque de la cause sociale. Et il se prend au jeu. Et très vite, le jeu n'en est plus un. D'abord, il va visiter ses bas-fonds parce qu'il écrivait sur quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il y va avec deux gardes du corps et il va rencontrer ce peuple qu'il décrit, qu'il va commencer à intégrer de véritables anecdotes et des témoignages dans la publication du jeu, donc dans le journal, au jour le jour. Et il commence à y intégrer des suggestions de modifications, notamment une banque des pauvres, dont Marx d'ailleurs va beaucoup rire dans La Sainte Famille, où il fait une critique acerbe de ces mystères de Paris. Mais enfin, Sue trouve qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et ça va même jusqu'à une forme d'identification. Les lecteurs le supplient de ressembler à son héros. Monsieur écrit une veuve en octobre 43, juste après la parution de la fin des Mystères de Paris. Soyez aussi bon que votre Rodolphe, si bon, si généreux, si compatissant. Il aime tant à faire le bien que j'ai espéré en vous. Et ça marche. Sue, en 1850, se présente dans le camp socialiste aux élections et il est élu député de la Seine. Malheureusement, il n'a pas le temps de faire grand-chose parce que le pouvoir a vraiment très, très mal vu ce succès populaire. Donc en 1851, il est parmi les premiers à être forcé à l'exil. Aucune ville en France ne veut l'accueillir, pensez ce trublion. Et c'est finalement à Annecy qu'il viendra se réfugier. Il va être poursuivi par la censure parce qu'il essaye de publier une suite, Les Mystères du Peuple. 60 000 exemplaires sont vendus et saisis et détruits en 57. Le choc est tellement grand que ça hâte sa fin. En fait, les autorités ne lui reprochent rien moins que d'avoir une sérieuse influence sur les barricades de 48. Les Mystères de Paris à l'origine du soulèvement de 48. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que sous l'influence de son œuvre, le dandy s'est fait rénovateur social, militant. Et voilà un livre qui a radicalement changé le cours de son existence. Un livre peut donc agir sur la réalité, permettre une interaction au fil des publications avec un public et même transformer l'auteur. En 53, Dunant, on a une preuve supplémentaire. Lorsqu'il rencontre une femme d'apparence assez réservée, plutôt timide, mais dont l'œuvre et la lecture de l'œuvre vient de le bouleverser, Harriet Beecher Stowe. À la fin du mois de juin 53, la déjà célèbre auteure de La case de l'oncle Tom fait une grande tournée européenne et parmi les villes qu'elle visite, il y a Genève. Elle séjourne chez Louis-Philippe Fazi, qui est alors professeur de littérature, un cousin d'ailleurs du général Dufour. C'est peut-être pour ça que Dunant a été invité. Et sa femme, Harriet Beecher Stowe, est surtout l'invitée de la femme de M. Fazi, Helena Meyer, qui est en fait la fille du consul britannique à Varsovie. Et c'est à Londres, semble-t-il, qu'ils se sont rencontrés. Dunant dresse quelques décennies plus tard un bref et assez pertinent portrait de cette femme. Sa modestie et sa simplicité étaient grandes. Effectivement, Harriet Beecher Stowe était assez terrorisée par toutes ses soirées dans les salons. C'était bien la cause de l'humanité qu'elle plaidait dans la vieille Europe. Sa douce et aimable figure prévenait tout le monde en sa faveur. Il note quand même un petit bémol, un bigotisme calviniste et un puritanisme que même lui juge un peu exagéré. Lorsque le roman paraît, en 2 volumes aux États-Unis, on est à la fin, au milieu de l'année 52, il s'en vend 10 000 exemplaires en une semaine et sans doute plus de 300 000 en une année, rien qu'aux États-Unis. C'est aux États-Unis le roman le plus vendu du 19e siècle et le second livre, après la Bible quand même, le plus vendu de ce siècle. En moins de 5 ans, on dénombre plus de 20 traductions. C'est le premier roman américain traduit en chinois. Et le raz-de-marée est encore plus important lorsque l'ouvrage arrive en Europe. En un an, 18 éditeurs et plus de 40 éditions s'emparent du livre à Londres. Il faut dire qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, effectivement, c'est un succès à bon marché. Dans tout le Royaume-Uni, avec les colonies, donc, en un an, se vendent 1,5 million d'exemplaires. Alors même que d'habitude, les œuvres américaines ont très peu de succès en Angleterre, à part quelques textes d'Irving et un peu Fenimore Cooper. Mais vous savez que les Anglais apprécient assez peu les Américains. Mais là, même la reine Victoria pleure en lisant le texte, exactement d'ailleurs comme sans doute l'essentiel de sa domesticité. Mais pas seulement sur l'esclave. Elle pleure, mais je pense qu'il y a une sorte de joie mauvaise aussi des Anglais qui voient la confirmation de leur mauvaise opinion des Américains qui n'arrêtent pas de leur faire la leçon avec leur fameuse démocratie, mais qui en fait font des choses épouvantables qui montrent bien la supériorité britannique. En France, la fièvre est à peu près semblable. On ne sait pas très bien au début ce qui va se passer. Toujours est-il que 4 journaux le publient en roman feuilleton simultanément, dans 4 traductions différentes, et dans des titres, on va le voir tout de suite, un peu différentes. Alors c'est tantôt La Case, tantôt La Cabane, on va y revenir. Le Charivari, le journal satirique de Paris, ne manque pas de s'amuser là-dessus. Il dit voilà, floraison de cabane, de case, chaumière, et bientôt peut-être pavillon, cottage et autres bungalows. La plaisanterie mise à part, je ne sais pas quelle édition a lu Henri Dunant. Celle de la presse qui annonce pour la publicité au moins 100 000 ou 150 000 exemplaires déjà vendus. Le Siècle, une semaine après, lui annonce 400 000 exemplaires déjà vendus. Ne manquez pas l'occasion. Mais aussi peut-être les éditions qui circulent en livre. C'est la même traduction, hein, La Case du Père Tom ou Le Père Tom. Ça fait partie des variantes du titre. C'est le même traducteur, mais dans l'édition publiée à Genève en 1953, le traducteur explique que comme la case ou la cabane ne joue pas grand rôle dans le texte, autant l'enlever du titre. La vision qu'on a de la traduction est un peu flottante encore à cette époque-là. Mais en tout cas, le texte le touche, c'est certain. Je ne sais pas non plus, mais je pense qu'en fait Henri Dunant a aussi lu en 1953 la clé de La Case de l'Oncle Tom. La Case de l'Oncle Tom a été extrêmement discutée aux États-Unis. Ça a complètement bouleversé la vie d'Harriet Beecher Stowe. Il y a eu un vrai clivage, évidemment, entre le Nord et le Sud. Le Nord portant au nu ce texte, le Sud expliquant qu'il ne s'agit que d'un roman et que d'ailleurs Madame Beecher Stowe n'est jamais allée au Sud, ce qui est vrai. Et elles se sont obligées de publier l'histoire, les documents, qu'en fait, qu'elle dit avoir consulté, mais qu'en fait elle n'a pas consulté. Elle les a lus après la publication du roman. Donc elle est vraiment mal prise. Imaginez, elle va jusqu'à recevoir des menaces de mort et elle reçoit même un jour un colis. Avec l'oreille d'un noir fraîchement coupé. Donc sa vie en a été profondément bouleversée, celle du continent américain aussi sans doute, et plus largement aussi celle du monde. En France, on s'interroge, pourquoi ce succès? La France, l'esclavage, ça ne la concerne plus vraiment. En plus, tout le monde le reconnaît, le livre est mal fait. Trop de détails. Madame Beecher Stowe ne sait pas écrire, mais George Sand, en décembre 52, dit « Mais qu'est-ce que le talent face au génie ?» Un génie dont l'humanité sent qu'elle a besoin, le génie du bien. Le génie, c'est le cœur, la puissance, c'est la foi. Le talent, c'est la sincérité, et finalement, le succès, c'est la sympathie. Cette femme, termine Sand, est une sainte, pas davantage. Pour Charles Secrétan dans la Revue Suisse, en décembre toujours de cette même année 52, ce qui peut passer pour de l'inexpérience dans ce livre, c'est en fait la simplicité des moyens, l'absence de ficelles, d'effets, de paillettes, de clinquants. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, c'est du métal pur, dit-il. Un ouvrage humain, profond, universel. Tous les faits de l'art, sans que l'art ne paraisse. Et Secrétan est manifestement très admiratif. Un acte, donc, plutôt qu'une œuvre d'art, qui survient juste au moment où le public peut s'en saisir. Un livre qui dépasse autant le public auquel il était destiné que la cause qu'il voulait défendre. Un livre de tous les temps, de tous les lieux, qui dénonce finalement les horreurs que les hommes peuvent infliger à d'autres hommes, les faibles, les humbles, les démunis, et qui fournit des pistes, tant à la fin de la case de l'oncle Tom qu'à la fin de la clé de la case de l'oncle Tom. Harriet Beecher Stowe fournit une sorte de marche à suivre pour parvenir au terme de cette abomination. Kafka l'écrit au début du XXe siècle, et je terminerai là-dessus. Il est bon que la conscience porte de larges plaies. Elle n'en est que plus sensible aux morsures. Il me semble d'ailleurs qu'on ne devrait lire que des livres qui vous mordent et qui vous piquent. Nous avons besoin de livres qui agissent sur nous comme un malheur dont nous souffririons beaucoup, comme la mort de quelqu'un que nous aimerions plus que nous-mêmes, comme si nous étions proscrits, condamnés à vivre dans des forêts loin de tous les hommes, comme un suicide. Un livre doit être la hache pour la mer gelée en nous. Eh bien, manifestement, en ce milieu du XIXe siècle, les plaies sont béantes et seront encore aggravées par les horreurs de la guerre de Crimée. Tout est prêt, donc, pour accueillir un nouveau choc. Je vous remercie.
Merci infiniment, Madame Dubuisson, pour cette allocution extrêmement intéressante et très très vivante, passionnante vraiment. Est-ce que vous avez des questions à poser? Vous aimeriez faire des remarques? Ben, sinon, je vous propose que nous faisons une pause de café et que nous reprenons ici à 10h30 pile, s'il vous plaît. Merci beaucoup et bon café.